RCF.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission À vos patients. Oui, nous allons partir à votre rencontre, vous qui un jour avez décidé de vivre votre passion. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Lavergne. Bonjour.
Bonjour.
Cédric, nous nous sommes rencontrés dans des circonstances privées. Nous cherchions un professionnel du mobilier, des objets d'art. Et comme c'est souvent le cas aujourd'hui, c'est par Internet que nous vous avons trouvé. On a échangé, on a sympathisé et j'ai découvert un passionné qui avait su faire de sa passion son métier. Quelqu'un évidemment d'incontournable pour notre émission À vos patients. Alors quand j'ai su que votre travail vous amenait dans notre région, j'ai sauté sur l'occasion. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous me disiez comment vous êtes entré dans la vie active, tout simplement.
Alors, au départ, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc dans l'automobile. Donc, il n'y avait pas grand-chose à voir avec le mobilier ancien au départ. Et très vite, je ne me suis pas forcément régalé pendant mes études. J'adorais les voitures, j'avais un papa qui était passionné d'automobile. Et donc, naturellement, j'avais fait un choix de partir en école d'ingénieur spécialisée en automobile. Et finalement, assez vite, je me suis retrouvé à pas beaucoup aller en cours et m'intéresser.
C'est pas bien, ça. Mais alors, ça, c'est, si je comprends bien, c'est ni vos études, ni votre formation vous amenaient à embrasser cette passion d'aujourd'hui, celle que vous pratiquez. Un métier qui n'est pas bien connu, est-ce que je peux dire antiquaire? Qu'est-ce que ça veut dire, antiquaire? Comment vous définiriez ce métier? En quoi ça consiste?
Moi, je considère que c'est donner une seconde vie à des objets et valoriser un patrimoine mobilier. Il est absolument fabuleux en France. On a fait des très, très beaux meubles, que ce soit au 18e, au 19e et dans la période Art déco et dans les années, des années 50 aux années 70. Moi, je me concentre plutôt sur ces années-là. On a un très, très beau patrimoine mobilier et l'idée, c'est de les valoriser et de leur remettre un coup de neuf et de les restaurer. Dans la majorité des cas, il va y avoir besoin de restauration. Puis de leur finalement de les sortir de leur environnement un peu poussiéreux, parce que souvent c'est des meubles qui sont restés pendant des dizaines d'années au même endroit et qui ont été achetés par des personnes dans ces années-là, donc, et de les remettre dans des intérieurs plus contemporains et de leur donner une seconde vie, clairement.
Voilà, continuer la vie de l'objet. Et comment cette passion de l'ancien, de l'art décoratif ou utilitaire, comment elle vous est venue?
Disons que j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé la littérature, alors que pourtant j'étais très bon dans les matières scientifiques et je suis plutôt un pragmatique dans l'âme, mais j'ai toujours été fasciné par moi-même étant vraiment un très mauvais dessinateur et en n'ayant pas spécialement de fibres artistiques au départ, j'ai toujours été fasciné par les gens qui étaient capables de développer leur créativité, leur sens artistique et de s'épanouir dans des disciplines créatives. Et j'ai finalement toujours créé des sociétés, puisque c'est ma quatrième société déjà, avec des associés qui étaient des créatifs et dans des environnements qui étaient créatifs, parce que c'est finalement avec ces gens-là que je trouve un miroir de ce que je ne suis pas et que je m'épanouis, que je m'éclate, en fait, tout simplement.
Alors, quelles étaient ces autres sociétés? Les premières, c'était quoi?
Alors, la première société que j'ai montée alors que j'étais encore en école d'ingénieur avec un ami qui, lui, était un créatif, s'appelait Curious. Ça s'appelle toujours Curious, d'ailleurs. C'était de la vente par Internet d'impressions d'art numérique. Donc, quand j'appelle art numérique, c'est tous les arts graphiques qui sont créé sur ordinateur, donc ça va de la photomanipulation, du graphisme, de l'illustration numérique. Et donc nous, on prenait ces illustrations-là et on venait les imprimer sur différents supports en édition limitée. Et donc on faisait un travail de valorisation et on ramenait du matériel numérique dans le physique, dans la vraie vie. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et finalement, mon associé, lui, a décidé de partir continuer l'aventure à New York. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait une rencontre qui a fait que je l'ai laissé partir à New York. J'ai revendu mes parts et je suis parti sur autre chose. C'était ma deuxième société qui s'appelait Yomi. Et donc, c'est là où j'ai vraiment pris goût, en fait, au mobilier, puisque c'était une société qui avait pour vocation d'être une place de marché de mobilier ancien, de mobilier, on va dire, du XXe siècle, avant que toute celle qui est en France aujourd'hui ne se monte, parce que ça devait être en 2011 ou 2012, si je ne m'abuse, avant que Celency ou Brocante Lab, avant que Design Market, avant que même que Pamono ne naisse, on avait envie de monter ça. Avec quelqu'un que j'avais rencontré qui devait investir dans Curious et qui finalement a décidé de monter une société avec moi à la place. Et c'était quelqu'un qui venait de chez Christie's, qui avait fait sa carrière chez Christie's sur la partie art contemporain. Et donc on a créé cette société et finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris pour différentes raisons, notamment pour des raisons de financement. On n'a pas réussi à boucler un deuxième tour de table alors que toutes les étoiles semblaient réunies et finalement ça s'est pas fait. Et donc ça a été ma première liquidation judiciaire. Ça aussi, c'était un truc.
Et on apprend par les échecs quand même.
Oui, bien sûr, complètement.
Mais alors, vous me dites que vous êtes passionné par l'art, j'entends bien. Cette passion, elle comprend la peinture, la sculpture. Est-ce qu'elle s'étend aussi à l'architecture, à la musique ?
Alors, la musique, évidemment, je ne pourrais pas me passer de musique et elle fait partie intégrante de ma vie. Mais j'adore. Comme tout le monde, je pense, aller à des concerts, aller à des festivals et aller à la rencontre des artistes qui me touchent. Mais disons que c'est, on va dire que c'est sur le...
C'est annexe, quoi.
C'est annexe. Ouais. Par contre, l'architecture, c'est quelque chose qui me parle, je pense, depuis longtemps et qui me touche de plus en plus parce que j'y vois un pont, finalement, avec la décoration d'intérieur qui fait de plus en plus partie maintenant de mon métier.
Mais c'est un tout, c'est quand même l'un va avec l'autre, on ne peut pas les dissocier.
Ouais, ils sont difficilement dissociables, c'est-à-dire que les plus grands décorateurs et designers du XXe siècle étaient également architectes, ou s'ils n'étaient pas, ils travaillaient en étroite collaboration avec des architectes également.
Alors, vous me dites que vous êtes spécialisé dans les années 60 et 70. Mais bon, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période-là, évidemment. Pourquoi cette époque ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un sens esthétique. J'aime beaucoup l'esthétisme de ces années-là. Également, une raison c'est des années que j'aurais adoré vivre en réalité. Je pense que les années 60, et particulièrement les années 70, étaient des années très positives de libéralisation de plein de choses, Il y avait un positivisme, une créativité.
Une insouciance
aussi, clairement. Clairement une insouciance.
L'air était plus léger.
L'air était très léger. Et on le retrouve d'ailleurs dans la création parce qu'elle était très
foisonnante,
très éclectique. Il y avait à la fois toute une influence de l'art déco et du modernisme. Avec un courant minimaliste qui se formait d'un côté, il y avait des choses très extravagantes, très exubérantes de l'autre côté, des créations qui étaient très festives, enfin qui allaient avec la fête, qui allaient avec une époque où les gens faisaient vraiment la fête. Et finalement, on arrive à travers ces meubles-là à retrouver un bout de cette ère du temps. Ouais, je pense qu'on a...
Ça fait... Plus léger qu'aujourd'hui, ouais. C'est vrai, ça fait du bien. Et vous êtes donc devenu un spécialiste de cette époque dans la pratique. Comment s'est fait ce passage, votre spécialisation ? Est-ce que c'est une obligation dans votre métier de se spécialiser, comme vous, sur une période précise ?
Disons que c'est pas forcément une obligation. On va dire que devenir expert dans le domaine, ça prend... je crois que ça prend 10 000 heures pour maîtriser sur le bout des doigts un domaine, quel qu'il soit. Je ne pense pas encore être à 10 000 heures, mais à plusieurs milliers, ça c'est certain. Et c'est vrai que j'apprends encore aujourd'hui, je découvre des créateurs des années 60 ou des années 70 dont je n'avais jamais entendu parler.
Justement, il faut beaucoup, beaucoup apprendre dans ce métier, dans votre spécialité. Est-ce que vous aimez ça ? Et comment vous faites pour apprendre ? Comment vous y prenez ? Parce que ça demande quand même beaucoup de temps.
C'est une des parties les plus intéressantes du métier, en fait. C'est d'être constamment en recherche, constamment en découverte, constamment en éveil de pièces, en fait. Au départ, c'est vraiment des pièces, donc un objet ou une pièce de mobilier qui nous touche et qu'on n'arrive pas au départ à attribuer, ou alors qu'on n'a jamais vu, qui est attribué mais qu'on n'a jamais vu. Et donc les sources pour apprendre et pour découvrir des créateurs dont j'avais, ou des maisons d'édition dont je n'avais jamais entendu parler, c'est, elles sont très variables. Ça peut aller de recherche internet, de suivi de maisons de vente, parce que j'aime de plus en plus d'ailleurs, j'aime suivre les ventes aux enchères, et j'aime surtout me déplacer pour aller voir les pièces dans, dans les très belles ventes, pour aller voir vraiment les très grands noms du design et toucher, sans toucher,
toucher les yeux.
Toucher les yeux, exactement. Ces pièces-là, ça va être en allant simplement, en flânant dans, au Puce de Saint-Ouen, parce que j'aime bien, tous les mois, j'y ai quelques amis, j'y suis au moins une fois par mois.
Pour... Ah, les Puces de Saint-Ouen. Alors, bien sûr, mais j'imagine que vous apprenez aussi en vous trompant, à vos dépens. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça ?
Complètement. Bah, disons que, on va dire que plus le temps passe et moins je me trompe, ça m'arrive encore peut-être une ou deux fois dans l'année de faire vraiment un très mauvais achat. Mais évidemment que les débuts sont toujours délicats, puisque il faut, on est dans un métier où il faut acheter avant de pouvoir vendre. Et donc du coup, on a rarement le temps en fait de faire des recherches approfondies sur ce qu'on achète, parce que il y a, quel que soit le canal d'achat, que ce soit directement à des particuliers, ou que ce soit via une maison de vente, ou que ce soit directement vers un marchand qui nous propose une pièce par exemple, de marchand à marchand, ce qui se fait beaucoup aussi, on a souvent rarement le temps pour vraiment creuser si on, si on, on ne connaît pas le designer qu'il y a derrière. Et donc du coup ça, ça donne des fois des, et un autre aspect qu'il faut rappeler, c'est que dans la majorité des cas, on achète sur photo. C'est-à-dire que du coup, moi, je fais partie de, entre guillemets, de la nouvelle génération d'antiquaires, où Internet, c'est la, notre plus grosse source de
Mais ça
de
peut
film.
Tromper, une photo.
Mais une photo, voilà, c'est quand même assez rare que les particuliers prennent des photos suffisamment de qualité pour qu'on puisse vraiment juger de l'état ou juger de l'esthétisme, parce que ça nécessite quand même d'avoir... 8-10 photos, donc c'est, on se retrouve souvent à acheter des choses sur une ou deux photos où on voit pas très bien la pièce, et donc maintenant avec l'expérience, même si soit je vois tout de suite quel est le créateur derrière, soit par sa construction et certains détails, même si j'ai pas immédiatement le créateur en tête, je sais que la qualité de fabrication et l'esthétisme de la pièce fait que je prends pas de risque à l'acheter, parce que d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à la valoriser. Mais c'est vrai qu'au démarrage, je dirais qu'il y avait peut-être 10-15% de mes achats qui étaient vraiment des mauvais achats.
Oui, ça fait mal, ça. Cédric Lavergne, je vous propose dès maintenant une petite halte dans notre voyage au pays des vieilles et des jolies choses, les antiquités qui ont fait notre histoire. Quelle musique choisissez-vous ?
Alors, un groupe que j'aime beaucoup qui est The Who, et donc ça va être My Generation de The Who.
Allez-y, c'est parti. People try to put us Don't you all fade away. Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Bienvenue aux auditeurs de RCF qui nous rejoignent dans notre émission À vos passions. Nous sommes avec Cédric Lavergne qui nous fait pénétrer dans les coulisses du marché des antiquités. Oui, parce que ce métier, c'est aussi la chasse. Vous êtes un chasseur, un dénicheur en quelque sorte. Parlez-nous du plaisir de la découverte d'une belle pièce rare. Donnez-nous des exemples de vos plus belles trouvailles et surtout de comment ça s'est passé, des circonstances.
C'est vrai que la Chine, la chasse, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Ça fait partie de. C'est une un des aspects, si ce n'est l'aspect le plus intéressant et le plus excitant de notre métier. Et je connais aucun antiquaire qui n'aime pas aller chiner, qui n'aime pas. On a tous nos bons coins à champignons, on va dire. On a tous nos endroits, on a tous nos méthodes. On a tous nos habitudes de Chine, mais c'est vrai que quand on tombe sur une pièce, moi par exemple, ça va être quand même pas mal sur le bon coin. Je pense que c'est encore mon plus gros canal d'achat aujourd'hui. Quand on tombe sur une pièce exceptionnelle sur le bon coin ou sur une annonce, on a toujours cette excitation de marchand qui est à la fois lié au fait que ce soit une bonne affaire, à la fois lié au fait que ce soit une superbe pièce et qu'on a envie de pouvoir la toucher, de pouvoir la récupérer, de pouvoir la restaurer, parce que c'est souvent des pièces qui nécessitent un petit peu de restauration et qui nécessitent surtout d'avoir de retrouver leur éclat d'antan. C'est vrai que non, ça fait partie des. Et puis il y a aussi cette notion d'urgence, parce que quand tu trouves une très jolie pièce, il faut être capable de réagir très vite, donc être capable.
Parce que là, le plus important, c'est quand même l'acte d'achat. C'est dans votre activité, c'est quand même le plus important. Expliquez-nous à qui vous achetez. Est-ce que vous achetez surtout à des particuliers?
Majoritairement à des particuliers, mais je dirais peut-être 70 à 80%. De mes achats et de mon inventaire proviennent de particuliers. La plupart du temps, ça va être les personnes qui ont acheté ce mobilier dans les années 60 ou 70 et qui, pour X ou Y raison de la vie, se retrouvent à vouloir s'en séparer, soit pour déménager, pour se rapprocher des enfants et des petits-enfants, pour partir en maison de retraite, puisqu'on est à peu près dans les périodes où les gens qui avaient acheté ce mobilier ont souvent entre 65 et 80 ans aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est toujours assez sympa, soit de les avoir au téléphone ou quand je peux de m'y déplacer. Parce que
c'est une rencontre
C'est clairement une rencontre et c'est souvent des gens qui sont très contents, en fait, que leur mobilier ait une seconde vie parce que, à ces époques-là, moi, dans ma génération, on pense plutôt que le mobilier est jetable, ou en tout cas que à chaque déménagement on va changer de mobilier ou on va conserver qu'une petite partie de son mobilier.
Et là, on n'est pas du tout dans la consommation effrénée, au contraire, c'est l'objet qui compte.
Exactement, c'est l'objet qui compte, et souvent c'est des gens qui avaient investi, qui avaient payé cher leur mobilier, qui parce que c'était du très beau mobilier. Il faut savoir que s'il a tenu pendant 50 ans et qu'il est toujours en très bon état et qu'il peut encore en faire 50 années, c'est que c'était au départ très bien construit et que c'était de très bonne qualité au départ. Et c'est d'ailleurs même je me retrouve souvent à acheter du Rocher Beaubois des années 70, et la qualité du Rocher Beaubois des années 70 était tellement supérieure que celle d'aujourd'hui. Je suis persuadé que dans 50 ans, il n'y aura plus un seul mobilier Rocher Beaubois qui ont été achetés cette année en 2019. J'en mets ma main à couper.
Mais est-ce que les gens viennent vous trouver parce que vous êtes spécialiste? Est-ce qu'il y a beaucoup de spécialistes de cette époque en France?
Je pense qu'on l'est de plus en plus, puisque je pense que le goût des années mobilier des années 60-70 est en train, entre guillemets, de revenir un petit peu à la mode. Je sais que, notamment sur Paris, il y avait eu beaucoup de mobilier des années 50-60 scandinaves qui meublaient les intérieurs d'appartements parisiens. Et je vois sur Paris que les gens sont de plus en plus en train de glisser vers les années 70, et des pièces en laiton, des pièces laquées, des pièces, on va dire, un peu plus statutaires, un peu plus fortes, et un peu moins lisses que le mobilier scandinave, bien qu'il y a des très très belles choses dans le scandinave. On est en train du coup de glisser doucement vers les années 70 et donc il y a de nombreux marchands, enfin de plus en plus de marchands qui se retrouvent à chercher ce genre de pièces, okay, puisque c'est celles qui sont en train de se vendre en ce moment. Donc.
Alors sur votre site, vous dites acheter dans toute l'Europe. Certains pays sont-ils plus riches que d'autres dans ces pièces vintage?
On a la chance d'avoir un magnifique patrimoine mobilier en France. Je pense que c'est objectivement le plus beau d'Europe, sans faire de chauvinisme absolu. On le voit que même, par exemple, aux États-Unis, c'est le mobilier français qui a le plus de succès également et qui se retrouve le plus sur le marché de la seconde main aussi quand on parle de pièces vraiment de qualité. Les Italiens avaient aussi du très très beau mobilier. Je dirais que c'est les deux pays, la France et l'Italie, où vraiment particulièrement sur ces époques, des années 50 aux années 70, début 80, c'était vraiment les deux pays phares.
Oui, alors justement, est-ce que votre activité est mondialisée? Vous devez, je suppose, vous tenir au courant de ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, très loin de chez nous. Est-ce que le marché est devenu international? Est-ce que certains pays sont plus attirés par tel ou tel type d'objet ou de signature?
Complètement. Dans mon activité, sur le type de pièces que je vends dans les années 60-70, moi je dirais que je réalise entre 50 et 60% de mon chiffre d'affaires à l'export. Et dans les pays où j'exporte le plus, ça va être les États-Unis en premier, et pas loin derrière finalement l'Angleterre et l'Allemagne, où voilà, je trouve une clientèle qui a le goût pour ce type d'objet-là. Évidemment, je vends quand même encore beaucoup en France, mais je remarque qu'on fait de plus en plus appel à moi depuis l'étranger. C'est aussi la beauté d'Internet.
Et... Bravo, bravo. Est-ce que ce sont aussi des professionnels, des musées peut-être, ou que des particuliers?
La majorité, l'immense majorité même de ma clientèle internationale, ça va être des décorateurs d'intérieur. C'est vrai que nous, en France, on a pas trop cette culture, à part la clientèle très très aisée, on n'a pas trop cette culture de faire appel à un décorateur d'intérieur pour meubler nos appartements ou nos maisons. On se fait suffisamment confiance, on arrive naturellement à jongler entre les styles et à faire un intérieur cocon qui nous ressemble. Et je pense que c'est lié à plein de choses, mais notamment au fait qu'on a, je pense, un sens esthétique qui est un peu plus développé que la moyenne en France.
Cocorico.
et globalement, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, par exemple, où là, la culture de la décoration d'intérieur, c'est-à-dire que dès qu'on a un nouvel endroit à meubler, on va tout de suite faire appel à un décorateur d'intérieur pour plusieurs raisons, pour s'assurer que ça reste de bon goût, pour... Il y a une forme de...
J'en ai pas forcément les idées, en plus.
Voilà, c'est... Il y a... Voilà, c'est... Et, voilà, c'est, et puis c'est une société où le service est surdéveloppé, et donc, naturellement, les clients se tournent vers des décorateurs d'intérieur qui, eux, viennent chercher souvent une partie du mobilier en Europe pour décorer.
Cédric Lavergne, l'émission arrive malheureusement à son terme, mais on a pris goût aux années 60 et on en redemande. Je vous donne donc rendez-vous pour une deuxième émission, si vous le voulez bien. Merci Cédric de nous avoir parlé de votre passion. Au revoir.
Au revoir, merci.
Chers auditeurs, au revoir et à bientôt pour d'autres passions. D'ici là, je vous souhaite mille envies, que battent vos cœurs et que vivent nos passions.